Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. On redébute cette année avec un thème spécial qui fera l'objet de deux épisodes. Une série inédite consacrée au cold case. Pour ce premier épisode du mois de janvier, on va poursuivre les discussions de l'émission précédente en parlant de réalité virtuelle, mais cette fois au service de la scène de crime. Pour en parler, François Lalès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes magistrat, ancien juge d'instruction du ressort de la cour d'appel de Caen, et avec vous David Brutin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pour votre part professeur en mécanique des fluides à Aix-Marseille Université, expert de justice près la cour d'appel d'Aix-en-Provence et de la cour administrative d'appel de Marseille. Vous avez porté le projet iCrime, qui sera au cœur des discussions, projet financé par l'Agence nationale de la recherche et qui associe des universitaires, experts de la mécanique des fluides et d'informatique, l'UNPJ, qui est l'unité nationale de police judiciaire de la gendarmerie nationale, et le tribunal judiciaire de Caen, en qualité de site pilote au sein de la cour d'appel de Caen. Votre binôme reflète cette réflexion combinée qui est la force de ce projet et de cette émission. Un grand merci à vous deux d'avoir accepté cette invitation. Réalité virtuelle, cold case, scène de crime. Chers auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle émission des temps électriques.
Donc maintenant, il ne reste qu'une seule balle. Une seule balle doit expliquer les 7 autres blessures relevées sur Kennedy et Connally. Mais plutôt que d'admettre un complot ou d'enquêter plus avant, la commission Warren a décidé d'adopter la thèse avancée par un jeune conseiller ambitieux, Harlan Specter. C'est un des plus gros mensonges qu'on ait fait avaler à l'opinion publique américaine. Nous l'avons appelée la théorie de la balle magique. La balle magique entre dans le dos du président selon un angle de 17 degrés vers le bas. Puis elle se met à remonter de façon à sortir du corps de Kennedy par l'avant du cou. Blessure numéro 2. Là, elle va attendre 1 seconde 6, sans doute suspendue en l'air, avant de tourner à droite, puis à gauche, puis à gauche, et continue sa course en entrant dans le corps de Connally par l'aisselle droite. Blessure numéro 3. Ensuite, la balle redescend, selon un angle de 27 degrés, brisant au passage la 5e côte de Connally. Et elle ressort par le côté droit de la poitrine. Blessure numéro 4. La balle alors vire à droite et repénètre dans le corps de Connally par son poignet droit. Blessure numéro 5. En lui brisant le radius, la balle ressort ensuite de son poignet. Blessure numéro 6. Effectue un spectaculaire demi-tour et va se loger dans la cuisse gauche de Connally. Blessure numéro 7, d'où elle tombera plus tard pour être retrouvée pratiquement intacte sur un chariot dans un couloir de l'hôpital Parkland.
La balle magique, extrait emblématique du film JFK. La question de la preuve est l'un des sujets où la justice a été le plus confrontée aux évolutions scientifiques. Analyse balistique, évolution de la médecine légale, expertise ADN. Rechercher la preuve pour atteindre la vérité, mais prouver surtout pour convaincre le juge, les jurés d'une vérité sur un dossier. Ce sujet de la preuve trouve une place toute particulière dans les affaires dites « cold case ». Ces affaires non résolues, crimes dits non élucidés, portent généralement sur des meurtres et des assassinats, mais incluent aussi l'atteinte grave à l'intégrité physique de la personne que constitue le viol. Leur spécificité réside dans le degré de complexité auquel se heurtent les investigations, qui soit, bien que toujours en cours, ne permettent pas la résolution de l'affaire, soit, une fois achevées, n'ont pas amené l'interpellation du ou des auteurs. De nombreux facteurs font du crime un cold case. Sa configuration, ses circonstances particulières, les investigations réalisées, justement, et l'impasse dans laquelle les enquêteurs et magistrats se trouvent. Ainsi, chaque année, des milliers de disparitions inquiétantes ne sont pas élucidées et deviennent, pour certaines, des cold cases. 4000. C'est le nombre de cold cases qui serait estimé en France depuis les années 1970. Pour traiter certaines de ces affaires, un nouveau pôle judiciaire dédié aux affaires non élucidées et aux crimes en série a vu le jour le 1er mars 2022 au parquet de Nanterre, le pôle cold case, qui sera à l'honneur dans la prochaine émission. Lors du lancement de ce pôle, on dénombrait 173 crimes non élucidés en France pour lesquels la justice était saisie et 68 procédures susceptibles de viser des crimes sériels, soit au total 241 dossiers. En 2025, 3 ans après la création du pôle, c'était presque le double. 434 procédures avaient été identifiées ou portées à sa connaissance. Il faut alors souvent attendre de nombreuses années pour que les progrès de la science permettent enfin de faire avancer les choses et que ces dossiers soient réouverts. Faire parler l'ADN, user de reconstitution faciale et de portraits robots génétiques, est désormais de la réalité virtuelle. Alors que nous vivons dans une réalité en trois dimensions, les éléments de preuve issus de la scène de crime sont le plus souvent formalisés en 2D. Photos, croquis, rapports d'autopsie. Avec les perspectives de la réalité virtuelle, la perception de la scène de crime et des indices qu'elle renferme évolue. Si les fondamentaux de l'enquête n'ont pas changé, les possibilités offertes par la science, si. Pour décrypter ensemble les promesses de cette technologie au service de la manifestation de la vérité, je donne la parole dans un instant à nos invités. Another Way to Die, un air de James Bond pour débuter cet échange sur une véritable scène de crime décrite dans ce morceau par Alicia Keys. On va parler ensemble de cet outil iCrime et des perspectives qu'il offre aussi à certains cold cases. Cet outil qui vise à transformer la manière d'aborder les scènes de crime grâce aux outils de la simulation numérique, de la réalité virtuelle. Alors pour débuter, David Brutin, avant de parler réalité virtuelle, parmi les disciplines mobilisées pour faire parler les éléments de preuve retrouvés sur les scènes de crime, on trouve la morpho-analyse des traces de sang. C'est un sujet sur lequel vous travaillez. Est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs ce dont il s'agit ?
Alors Sophie, la morpho-analyse de traces de sang, c'est une discipline qui consiste à étudier la forme, la taille, la distribution et l'orientation des traces de sang qu'on a retrouvées sur une scène de crime afin d'en déduire les différents événements sanglants. Avec la morpho-analyse, on ne se contente pas juste de constater qu'il y a du sang, on va chercher à comprendre comment est-ce qu'il s'est déposé. Donc concrètement, ça permet d'identifier ce qu'on va appeler nous des phénomènes passifs, actifs, naturels. Ça va permettre de reconstituer les mouvements de la victime et parfois ceux de l'auteur. Ça va permettre d'estimer des positions, des gestes, voire la chronologie des événements. C'est une discipline qui est à la frontière entre la physique, la biologie, la chimie, la mécanique des fluides et forcément les sciences criminelles.
Et alors, quand on insère la réalité virtuelle dans cet outil, quand on l'utilise plus exactement, on a des avancées importantes qui sont à l'étude en la matière. Qu'est-ce que ça vient changer ?
Alors, la morpho-analyse intégrée dans iCrime, ça va nous permettre de changer d'échelle. Notre objectif, c'est de passer d'une analyse qui peut être considérée comme statique à maintenant une analyse qui va être dynamique et surtout immersive. On va voir s'immerger dans la scène de crime. Donc, iCrime va apporter des précisions scientifiques sur le calcul des trajectoires de projection de sang, là où aujourd'hui, ce sont des estimations de position avec des incertitudes parfois assez importantes. Donc c'est pourquoi iCrime, c'est avant tout un projet de recherche interdisciplinaire. Donc comme vous l'avez indiqué, on est financé par l'Agence nationale de la recherche et on va faire travailler ensemble à la fois des chercheurs du monde académique, des opérationnels, qui sont les magistrats dans les tribunaux judiciaires, mais aussi des gendarmes de l'UNPJ. Et donc c'est un projet c'est certes un projet de recherche, mais il a une finalité vraiment très concrète. Et grâce à la réalité virtuelle, on va pouvoir justement replacer les traces de sang dans un espace en 3D, dans un casque, on va pouvoir les visualiser en 3D. Contrairement à l'exemple où on vous indiquait, on a une explication sur des photos, là on va pouvoir être à l'intérieur de la scène, on va pouvoir tester des hypothèses. des scénarios, des positions, différents angles, force de frappe, etc. et visualiser tout cela immédiatement avec l'impact sur la scène. Donc on ne va plus regarder une photo ou un schéma, mais on va cette fois-ci en fait être immergé dans l'environnement, dans la scène. On va pouvoir observer en fait chaque hypothèse, ce qu'elle a donné comme résultat. Mais alors attention, iCrime, ça reste un outil d'aide à la compréhension. Ce n'est pas une machine à dire la vérité.
Et alors techniquement, cette mise en œuvre-là, ça s'établit comment ?
iCrime, ça repose sur différentes étapes, de la scène de crime jusqu'après au procès, quand on a une mise en cause qu'on a identifiée et qu'on veut juger. Donc d'abord, la numérisation de la scène de crime, donc, qui est une opération faite par des forces de sécurité intérieure, police ou gendarmerie, donc avec des techniques qu'on va appeler de la photogrammétrie, des scans 3D, des relevés. Puis ensuite, le côté académique, nous, on va contribuer à faire de la modélisation physique des phénomènes. On va modéliser la chute de gouttes de sang, leur impact, les projections, la fragmentation de flaques de sang quand on va taper dessus avec un objet, comment est-ce que ça va se fragmenter en gouttelettes. Et puis l'ensemble des modèles physiques que l'on aura créés, on va l'intégrer dans un logiciel, dans un, on va dire un jeu en quelque sorte, qui va être notre moteur de simulation pour qu'ensuite ce jeu, on puisse le jouer dans le casque et que les différents acteurs de la reconstitution, de la scène ou du procès puissent s'immerger dans cette scène. Donc on va avoir différentes étapes. C'est là en fait les différents acteurs de notre groupe vont intervenir. Donc d'abord, on va avoir le groupe de Sébastien Mavromatis, qui travaille au laboratoire d'informatique et des systèmes d'Aix-Marseille Université. Lui, il va reconstruire les nuages de points, c'est-à-dire l'acquisition de la scène, et il va en faire justement un modèle informatique avec lequel ensuite on va pouvoir travailler dessus. On va passer de photos à des images qui vont pouvoir se décomposer en objets. Par exemple, si on a en photo une table, on va pouvoir après prendre la table, la manipuler, la sortir de sa photographie et la manipuler en 3D. Moi, le groupe que je coordonne va viser à comprendre comment est-ce qu'on fragmente des flaques de sang en gouttelettes et qu'on puisse après du coup le mettre dans un logiciel. Il ne s'agit pas cette fois-ci de donner quelque chose qui représente à peu près la réalité. Il faut qu'on soit certain que ce soit exactement la physique qui se produit en réalité sur une scène de crime. Ensuite, le groupe de Christophe Josserand au laboratoire dynamique de l'école polytechnique, lui va mettre ses modèles dans le casque et va faire justement la simulation en réalité virtuelle pour assembler nos différentes contributions dans iCrime. Puis après, après le côté économique, il y a le côté opérationnel, donc avec notre partenaire historique de la gendarmerie nationale, donc qui est commandé par le général Sylvain Noyau, avec lequel on travaille, et le colonel Brard, donc qui dirige la division de l'innovation technique au sein de l'UNPJ. Donc on travaille, nous, avec deux services de l'UNPJ, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale pour le côté morpho-analyse de traces de sang, mais également avec la division des affaires non élucidées du service de renseignement criminel de la gendarmerie pour le côté cold case, comme vous l'avez abordé. Donc tout ceci, on le fait pour répondre aux besoins des magistrats, donc magistrats du tribunal judiciaire de Caen et de Nanterre, pour construire ensemble un outil iCrime en cohérence avec les besoins à la fois en phase instruction, en phase reconstitution et même aux assises. Alors attention, ça ne reste qu'un outil d'aide à la compréhension des scènes de crime. Rien ne remplace l'humain qui va être derrière. C'est un outil juste supplémentaire pour l'aider à aller vers la résolution de la scène de crime.
Et on vous entend vous inciter sur l'idée d'outils. On va reprendre l'idée, parce que même si effectivement c'est la sécurité qu'on se place aujourd'hui dans cette création, on a quand même des discussions juridiques qui s'en suivent. Je me tourne vers vous, François Lalès. Donc vous êtes magistrat, je le rappelle. Au-delà de ce travail sur les traces de sang, on a d'autres exemples qui ont été pris par David Brutin à l'instant. Quels sont plus largement les éléments qui sont mobilisables en VR sur une scène de crime ? Sur quels paramètres on peut jouer dans le cadre d'une reconstitution ?
Alors déjà, Sophie, faut bien se mettre à l'esprit les objectifs de la reconstitution. La reconstitution, c'est le moment pendant lequel on propose aux différents protagonistes des faits de se remettre dans la situation dans laquelle ils étaient au moment, ou plutôt même avant, leur commission. Et c'est l'occasion donc d'un échange et de discussion sur la base de ces reconstitutions de faits et gestes. C'est l'occasion d'apprécier in situ la pertinence de leur déclaration, la concordance des déclarations avec les constatations ou avec les résultats d'expertise, le moment de mettre en évidence des variations dans les propos, des incohérences dans les versions. Et donc la réalité virtuelle ne pourra jamais remplacer complètement une immersion réelle sur scène de crime. On ne pourra jamais reproduire l'effort physique dans une réalité virtuelle. On pourra difficilement reproduire un environnement sonore fiable, hein, quand des personnes disent avoir perçu un bruit ou au contraire ne pas avoir perçu un bruit. Mais il y a par contre, il y a plein de choses qu'on pourra faire dans un environnement virtuel aussi bien que dans l'environnement réel. Et je dirais qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire même mieux dans un environnement virtuel que dans un environnement réel. Par exemple, lorsqu'on reconstitue actuellement des scènes de crime, il y a de nombreux acteurs, mais il y a aussi de nombreux spectateurs. Et donc autant de policiers, escortes, magistrats, greffiers, avocats, procureurs, autant de personnes qui n'étaient pas là au moment des faits. Et qui viennent finalement par leur présence perturber, involontairement, mais perturber le déroulement de la scène, la reproduction de la scène, parfois dans des lieux tout à fait exigus. Et donc la réalité virtuelle offre la possibilité d'immerger les protagonistes, mais aussi de les isoler de leurs spectateurs, et donc de les replacer dans une configuration plus proche de celle dans laquelle ils ont commis les faits. Il est possible de jouer sur la présence de tel ou tel interlocuteur dans cet environnement virtuel si on estime qu'il est utile de simuler la présence de l'avocat d'une partie ou de la présence du juge qui interagit. En tout cas, on a cette capacité à moduler qu'on n'a pas sur une scène réelle. De la même manière, quand on se transporte sur les lieux, les lieux portent encore souvent, même quasiment systématiquement, les stigmates de la scène de crime, c'est-à-dire notamment des projections de sang sur différents supports, les murs, le sol. Et ces informations-là, par essence, n'étaient pas présentes avant les faits, et elles viennent nécessairement perturber la reconstitution, puisqu'elles donnent des informations qui sont essentielles et qui viennent éventuellement combler certains oublis ou des informations sur lesquelles les protagonistes auraient, pour une raison ou pour une autre, envie de se calquer. Et donc cette situation finalement in situ crée des biais et la réalité virtuelle permet de s'en affranchir, pourquoi pas en offrant la possibilité d'effacer, de remettre à zéro complètement la scène, d'effacer les traces de sang et permettre aux protagonistes de reconstituer dans un environnement tout à fait similaire à celui qui était celui avant la commission des faits. Et on peut tout à fait envisager de faire réapparaître à un moment de la reconstitution ces traces pour comparer les propos de tel ou tel protagoniste à la réalité des faits. Autre avantage qu'on peut avoir, c'est celui, dans la réalité virtuelle, d'avoir recours à des avatars, c'est-à-dire des personnages qui n'ont pas les traits des protagonistes, voire qui n'ont pas les traits des traits humains, mais qui présentent des caractéristiques morphologiques tout à fait comparables à celles des protagonistes. Alors on pourrait considérer que c'est un point négatif de la réalité virtuelle, puisque une dimension un peu ludique, qui serait tout à fait déplacée. Mais elle permet justement cette avatarisation des protagonistes. Elle permet de, parfois, je pense, elle permettra d'avoir une saine distance avec les faits. C'est pas évident pour un mis en examen de reproduire à froid, dirais-je, des faits, parfois des gestes, parfois extrêmement violents. Et qui plus est, en présence de spectateurs, mais qui plus est sur un autre être vivant. Et je pense que la capacité de recourir à des avatars permettra de mettre cette mise à distance sans perdre l'essentiel, hein, finalement, et permettra à des protagonistes qui auraient refusé de refaire certains gestes, leur permettra de s'exprimer dans cet environnement virtuel. Et puis je dirais enfin, autre élément sur lequel on pourrait jouer dans un environnement virtuel, c'est tout ce qui découle des capacités d'enregistrement de la scène, d'acquisition de cette scène reconstituée dans un environnement virtuel, c'est-à-dire qu'on n'est pas contraint, dans un environnement virtuel, de redemander au protagoniste de rejouer la scène pour reprendre une bonne photo sous tel ou tel angle. Il y a un aspect totalement artificiel à demander aux protagonistes de faire un peu les acteurs. Et dans un environnement virtuel, on pourrait justement, après la reproduction unique de la scène, eh bien la visualiser sous différents angles, voire des angles physiquement impossibles sur place, ou tout simplement depuis les yeux de l'auteur ou les yeux de la victime.
C'est intéressant, votre expression de en fait, lutter contre l'artificiel, alors que finalement on est dans une reconstitution. Je trouve que l'opposition est assez intéressante, mais on la comprend. Et donc justement, si on suit ce que vous expliquez vis-à-vis du mise en cause, c'est aussi finalement une possibilité de se saisir de l'outil pour se livrer. Même si, dans ce que vous exprimez, on ne peut pas faire en réalité virtuelle, on ne peut pas tout reproduire, et notamment je pensais aux odeurs en vous écoutant. Et voilà, l'odeur, c'est quand même une trace forte sur une scène de crime qui permet aussi une immersion. Et quand... Enfin, je ne sais pas, est-ce que vous voulez réagir à cette...
Non, mais tout à fait. D'ailleurs, le principal... souvent, le principal intérêt d'une reconstitution, c'est celui de cette immersion et de l'effet de l'immersion sur un mis en cause. Puisqu'il y a une émotion qui peut se dégager de ce transport et qui va parfois permettre la libération de la parole. Ou, à défaut de pouvoir dire les choses, cet environnement permettra au mis en cause de s'exprimer par des gestes et de montrer plutôt que de dire, hein, montrer ce qu'il a fait. Donc effectivement, ce transport, c'est un outil d'échange et de communication, c'est un outil qui peut générer de l'émotion. On se privera certainement en n'allant pas sur site, on se privera certainement des odeurs, effectivement, des bruits, de tout ce qu'on peut percevoir hein, physiquement sur des lieux. Mais pour qui a déjà mis un casque de réalité virtuelle, l'immersion est bluffante et produit vraiment des effets sensoriels importants, et donc sur lesquels on pourra, dont on pourra tirer des bénéfices, je pense, lors d'une reconstitution, même seulement virtuelle.
Alors, on va revenir dans un instant sur le partage finalement de ces informations entre les différents acteurs. Mais David Brutin, quand on veut finalement avoir une bonne scène de crime et un usage efficace dans leur matière de réalité virtuelle, ça implique de pouvoir numériser les éléments de cette scène de crime. C'est indirectement ce que vous évoquiez tout à l'heure. Pour les call cases, qui sont au cœur indirectement de cette émission aussi, est-ce que ce n'est pas ici une limite importante parce qu'on parle d'affaires qui sont anciennes ? Où la numérisation de la scène de crime n'est pas forcément complète, voire suffisante.
Alors, justement, on est tout à fait d'accord, la plupart des cold cases, ou en tout cas une certaine partie, sont effectivement dans des lieux qui n'existent plus. Mais il existe encore des cold cases pour lesquels le bâtiment, le domicile, la maison ou l'appartement sont toujours là. Donc les murs, le sol, le plafond n'ont pas changé en termes de hauteur. Peut-être les meubles, effectivement, ont été modifiés. Mais grâce aux constats qui ont été faits sur la scène de crime, on a des photos. Donc on va pouvoir... même après 10 ans, 20 ans, 30 ans, retourner, numériser les lieux, numériser la pièce de la maison, la pièce de l'appartement, et grâce aux photos, on va pouvoir replacer les meubles. Et donc, on va quand même, même pour un cold case, pouvoir en fait remodéliser cette scène, malgré le fait qu'on n'a pas pu l'enregistrer au moment des faits, il y a 30 ans. Puisque si la maison, effectivement, elle a été détruite, ou si l'immeuble a été détruit, là, oui, c'est effectivement, on ne pourra plus rien faire. Mais dans la plupart de ces dossiers, les biens immobiliers, qui sont les lieux de la scène de crime, existent toujours. Donc grâce aux photos, on va peut-être, ça va être plus long, mais on va pouvoir retrouver ben, la table qui était à tel endroit, sa marque, son fabricant, ses dimensions, sa hauteur, et finalement on va refabriquer chacun des meubles pour les remettre dans ses murs, et du coup on va reconstituer grâce aux photos le papier peint, le sol, la moquette, et donc finalement on va passer plus de temps, mais pour un cold case, on va dire on n'est pas pressé. On a tout le temps justement de faire cette reconstitution, alors que sur un cas chaud, je dirais brûlant, où il y a peut-être un mis en cause qui est incarcéré, là on ne peut pas se permettre de prendre trop de temps pour faire toutes ces étapes de recherche et de reconstitution. Donc, ce n'est pas vraiment un souci pour nous. Comme je l'ai dit, donc la pièce, elle existe toujours. On peut la reconstruire. Après, elle va rester du coup une hypothèse supplémentaire. Dans un cold case, comme on n'aura pas numérisé la vraie scène de crime, effectivement, le repositionnement des meubles et ces meubles qui ont été recréés, ce sera une hypothèse, comme l'hypothèse de l'arme contendante, du suspect que l'on teste. Voilà. C'est un espace justement qu'on aura créé, il est plausible, et puis ce sera une hypothèse qui pourra être contredite lors d'un contre-interrogatoire.
Alors là, on a encore une, c'est pas une opposition, mais en tout cas quelque chose qui conduit à la réflexion, parce qu'on note le souci d'exactitude dans la reconstitution, dans la configuration des lieux, et en même temps, vous exprimez ces idées de plausibilité, d'hypothèse. C'est-à-dire qu'on a une objectivation des faits par un outil scientifique qui offre des nouvelles clés de compréhension au comportement criminel, et forcément aussi au passage à l'acte. Alors, j'aimerais vous faire réagir dessus, François Lalaise, parce qu'évidemment, pour déterminer par exemple, qu'une victime a reçu violemment un couteau en face, pouvoir déterminer ça, c'est absolument pas la même chose que de comprendre que l'auteur se trouvait de façon très différente, peut-être au sol, sous cette victime, peut-être dans une position juridique dite de légitime défense. Alors évidemment, la présentation de la preuve, elle influence la perception des magistrats et comment elle peut être discutée dans une salle d'audience. Parce que autant on parle d'exactitude, de souci d'exactitude dans cette mise en œuvre, et en même temps, on a bien conscience que ce ne sont que des hypothèses. On discute en termes de plausibilité.
Tout à fait. En salle d'audience et encore plus en présence de jurés qui ne sont pas forcément, ne sont pas habitués à la distance qu'il convient de prendre face aux éléments qui vous sont soumis. Il faudra redoubler de vigilance. C'est déjà le cas aujourd'hui lorsque les experts exposent leurs conclusions. D'ailleurs, ils les qualifient, ils prennent le temps de présenter leurs différentes hypothèses et de les qualifier de hautement probables ou faiblement probables. Donc c'est justement le rôle du débat contradictoire de mettre en relief les limites des conclusions de chaque expert. Mais avant même le débat contradictoire à l'audience, il y a un débat contradictoire qui peut et qui même doit se faire en phase d'instruction. Mmh. Et en ce sens, l'outil iCrime permet la compréhension des conclusions de l'expert, permet de comprendre son raisonnement et permet de le critiquer, non seulement en phase de jugement, mais aussi en phase d'instruction avec, à la clé, une possibilité de contre-expertise. Et une contre-expertise qui, aujourd'hui, est difficilement réalisable quand la scène a disparu, parce qu'elle a été restituée. Donc là, iCrime sera un outil de débat contradictoire, un outil commun à l'ensemble des protagonistes, soumis lui-même à la critique, et qui viendra nourrir ce débat, qui ne viendra pas le remplacer. Donc effectivement, il faudra redoubler certainement de vigilance pour attirer l'attention des jurés sur le fait que ce qu'ils voient n'est pas nécessairement la réalité. L'image n'est pas la preuve. Voilà. Mais c'est déjà tout le problème aujourd'hui, hein, face à des conclusions d'experts, hein, qui ont l'aura justement de l'expert. Il faut aussi savoir prendre la distance avec ces conclusions et les mettre en relief avec éventuellement d'autres conclusions.
Et avant de parler de cette distance, qui produit d'ailleurs ces hypothèses de travail, David Brutin, on n'en a pas parlé, on perçoit bien que les hypothèses vont influencer les résultats, donc qui va produire les hypothèses?
Alors, des hypothèses, il y en a qui viennent de tous les côtés. Il y a des hypothèses qui viennent de côté de l'instruction, où justement on veut tester différentes hypothèses. Il y a les protagonistes qui vont donner justement, il y a des témoins qui peuvent donner. Donc en fait, les hypothèses, elles viennent de partout. Un auteur peut très bien vous dire, j'ai fait ci, j'ai fait ça, peut changer de version. Et donc là, l'idée est de reproduire le discours, les hypothèses annoncées par un mis en cause, un auteur, et de voir sa cohérence. Mais c'est ce que font déjà les experts en morphoanalyse. Aujourd'hui, simplement, pour tester les hypothèses, ils le font avec les outils dont ils disposent. Ils vérifient, ils comparent, ils font des calculs avec une précision. Et c'est là où, justement, ils se représentent les hypothèses, ils donnent des résultats en 2D sur un écran d'ordinateur. Et là, l'idée, c'est de tester ces hypothèses comme ils le font actuellement, mais dans un environnement 3D, et peut-être avec une visualisation et une compréhension plus facile de tous les non-professionnels. Un morphoanalyste va arriver à traduire une hypothèse dans une scène de crime et visualiser en fait la conséquence, mais un juré, un juge d'instruction ou même un avocat, lui, ne va pas forcément comprendre la conséquence d'un geste en mécanique des fluides, en projection de traces de sang. Et donc là, on pourra permettre d'avoir une visualisation en direct. Alors ça reste des hypothèses toujours qui sont produites par des humains, qu'ils soient des témoins, des mises en cause, des enquêteurs, des experts, des magistrats, où iCrime, là, il est là juste pour permettre une visualisation facile, rapide, efficace. Il n'est pas là pour décider, heureusement. Donc iCrime, l'objectif, c'est de faire un calcul. C'est de faire un calcul scientifique, rigoureux, sur la base des hypothèses. Mais ce n'est pas iCrime qui fera des hypothèses. Les hypothèses, elles proviennent de tous les acteurs. Et puis, ça va permettre surtout de faire une sauvegarde et une traçabilité pour le contradictoire et pour toute la suite de la procédure judiciaire, une traçabilité de toutes ces hypothèses. Toutes les hypothèses qui auront été testées, pourquoi elles auront été testées, par qui, et quel résultat elles donnent, tout ça aura été archivé et on pourra revenir dedans par la suite en disant, mais attendez, à tel moment, vous avez testé telle hypothèse, pourquoi est-ce que vous avez voulu tester telle hypothèse? Qu'est-ce qui vous a amené à ça? Donc il y aura en fait une richesse d'informations qui pourra être exploitée durant toute les phases justement de l'instruction jusqu'au procès. En fait, on a construit iCrime de manière à garantir le respect du contradictoire, évidemment, mais la traçabilité, justement, et faire que tout ce qui sera testé, toutes les hypothèses, elles puissent être discutées, tracées, dans un souci, bah, forcément, d'utilité derrière, au moment du procès pénal.
Alors, c'est bien un enjeu de compréhension, mais aussi de recul par rapport à ces images. Et c'est une discussion qu'on a eue d'ailleurs dans la dernière émission en décembre, quand on parlait de la force performative des images dans l'usage de la VR, dans un cas différent, celui de la justice restaurative. Mais on voyait bien qu'il y avait une perception pour l'utilisateur qui pouvait aussi être influencée par cette image qu'on lui propose, surtout dans un univers un peu ludique, que vous l'avez exprimé tous les deux de façon différente. Il y a un vocabulaire propre au jeu parfois, il y a une réaction, une interaction propre au jeu. François Lalès, vous évoquiez la question des jurés, vous l'avez aussi évoqué d'ailleurs, David Brutin. Est-ce qu'on est formé à la réception de ces images? Les magistrats le seront-ils? Le sont-ils déjà? Et plus particulièrement les jurés, parce que dépourvus de cette formation-là, on a déjà des présidents en assises qui, lorsqu'ils proposent avoir des photos, vidéos, enfin c'est pris avec beaucoup de précautions, informent les jurés, finalement, du poids que ça peut avoir, de l'impact émotionnel que ça peut susciter, et du recul qu'il faut avoir. Est-ce qu'on envisage la même chose, plus encore, peut-être, pour la réalité virtuelle? Est-ce qu'on le devrait? Beaucoup de questions.
Certainement, le recours à cette réalité virtuelle dans les salles d'assises soulèvera de nombreuses questions, de nombreuses critiques, nécessairement, et il faudra... apprécier l'influence cet outil pourrait avoir sur la décision. J'ai tendance à penser qu'il n'est jamais bon de priver le décideur final d'une information essentielle, à laquelle d'ailleurs tous les autres protagonistes qui ont préparé le procès ont eu accès. Donc finalement, c'est un comble aujourd'hui de constater que le transport sur les lieux et la reconstitution, et donc cette immersion dans un environnement réel, n'est accessible qu'à ceux qui font l'enquête, qui participent à l'enquête, et pas à ceux qui décident. Donc ceux qui décident vont être confrontés à ceux qui ont vu. Et ceux qui décident sont finalement un peu moins bien informés que ceux qui sont en face d'eux. Donc c'est quand même un comble. Aujourd'hui, cette information, grâce à la réalité virtuelle, pourrait être partagé, je dirais qu'on pourrait parler d'égalité des armes encore plus, non seulement égalité des armes entre la défense et l'accusation, mais aussi, en poussant un peu le concept, égalité des armes pour ceux qui vont décider. Donc le problème existe déjà aujourd'hui du poids de l'image dans la décision. Et il conduit étonnamment à faire le choix de priver les jurés de certaines images qui sont pourtant riches en informations. Je précise, la scène de crime est vraiment riche en informations, elle témoigne directement des actes. Et le corps de la victime, eh bien, son état est directement le résultat de l'action de l'accusé. Potentiellement, en tout cas, voilà. Donc, en ne montrant pas le corps, parce qu'effectivement, sa vision peut être choquante, eh bien, on fait le choix de priver les juges d'une information essentielle, au motif qu'on les protégerait et au motif qu'ils rendraient une décision trop sévère ou sous le coup de l'émotion s'ils y avaient accès. Donc c'est tout à fait compréhensible, mais c'est quand même bien dommage. Et je pense que la réalité virtuelle permettra de dépasser justement, de dépasser cette difficulté, notamment en recourant, comme je vous le disais tout à l'heure, aux avatars. Mmh. On pourrait tout à fait envisager qu'on montre au juré un corps qui a toutes les caractéristiques morphologiques et, de la victime, et qui permettra au médecin légiste d'exposer très précisément ses conclusions, sans pour autant éprouver trop les jurés. Donc oui, il faut se méfier de l'image, il faudra encore s'en méfier à l'avenir, et encore avec cet outil, mais je dirais que le problème n'est pas nouveau et iCrime ne le crée pas. Voilà.
Effectivement, alors c'est peut-être dans cette co-construction de la preuve que cette cette discussion, ce contradictoire, égalité des armes, c'est des références importantes que vous évoquez, que tout ça émergera. Question peut-être finale, qui va contrôler tout ça? Est-ce qu'on contrôle? Comment on contrôle ces outils, David Brutin? C'est une question importante, le contrôle.
Oui, alors iCrime, c'est un outil qui a vocation à être implémenté, installé, déployé dans les tribunaux judiciaires et opéré sous le contrôle des magistrats, donc avec les services informatiques des ministères. Donc, évidemment, iCrime va manipuler une scène de crime. Donc, les données d'une scène de crime, c'est une donnée dans une procédure pénale. Donc, ça doit être sécurisé. Il faut un niveau de sécurité informatique. Il faut un niveau de traçabilité sur le fait que toute personne qui viendrait utiliser iCrime, il faut qu'on sache qui c'est, quel jour, quelle heure. L'idée, c'est d'avoir un contrôle total de l'utilisation du logiciel, des données qu'il exploite, donc une traçabilité sur les simulations qui ont été faites, quels modèles ont été utilisés, parce que peut-être qu'un an plus tard, en contre-expertise, quelqu'un importera un autre modèle que l'on voudra tester pour voir les résultats, ben, il n'y aura aucun problème pour le faire. Donc ce contrôle, c'est forcément les tribunaux qui auront l'outil dans leurs locaux, mais ça n'empêchera pas de mettre, par exemple, un mis en cause qui se trouve en détention et on ne veut pas prendre le risque de le sortir, de lui mettre un casque depuis son lieu de détention. De même qu'un expert en morphonésie de traces de sang, lui, pourra être à l'UNPJ dans son bureau et participer à cette reconstitution chacun depuis son lieu de travail. Mais il y aura une traçabilité totale et puis il y aura finalement un outil unique qui va centraliser toute cette simulation et qui va en faire ce qu'on appelle dans le vocabulaire informatique un log qui sera exploitable et qui pourra être annexé dans les PV, dans les pièces cotées, comme étant en fait l'une des pièces qui a servi en phase d'instruction à amener la mise en cause peut-être, à donner une information qu'il a accablé, je ne sais pas, dans un sens ou dans un autre. Donc iCrime, ça reste un outil qui sera contrôlé par ceux qui opèrent, ceux qui instruisent le procès. C'est pas un outil, ce sera pas un logiciel privé. Ce sera un logiciel public hébergé dans les tribunaux, mais qui sera au service du débat judiciaire. Il n'a pas vocation à se substituer au débat. C'est juste un outil supplémentaire, comme il en existe déjà d'autres outils qui sont utilisés dans une procédure.
Oui, vous l'avez dit en début d'émission, on finira par là, ce n'est pas une machine à dire la vérité. C'est peut-être ce qu'on retiendra, mais on retiendra aussi que la contrepartie, c'est sans doute cette traçabilité, mais finalement le contrôle de ces outils. Voilà, ouais. Discussion à suivre. Merci beaucoup à tous les deux pour cette
échange. Merci Sophie.
Maintenant, Watson, nous voici avec une demi-heure devant nous, dit Holmes en se frottant les mains. Il s'agit d'en profiter. Mon dossier est, comme je vous l'avais dit, presque complet. Mais ne péchons pas par excès de confiance. Aussi simple que semble l'affaire à présent, elle peut avoir des ramifications souterraines. « Simple ? » m'écriai-je. « Certainement, » dit-il avec l'air d'un professeur d'hôpital s'exclamant devant ses internes. « Asseyez-vous dans ce coin-là pour que l'empreinte de vos pas ne complique pas les choses. » « Bien, au travail maintenant. Tout d'abord, comment ces gens sont-ils venus ? » « La porte n'a pas été ouverte depuis la nuit dernière. » « Et la fenêtre ?» Il l'éclaira avec la lanterne, tout en faisant des observations qui, bien qu'articulées à haute voix, s'adressaient plutôt à lui-même qu'à moi. La fenêtre est fermée de l'intérieur. Le châssis est solide, pas de gonds sur le côté, ouvrons. Aucune gouttière dans le voisinage. Le toit est tout à fait inaccessible d'ici. Et pourtant, un homme est monté par la fenêtre, car il est tombé, un peu de pluie la nuit dernière. Et voici l'empreinte qu'un pied boueux sur le rebord. Là se trouve une marque terreuse, de forme circulaire. La voici encore sur le plancher, et à nouveau près de la porte. Regardez ici, Watson. C'est vraiment une très jolie démonstration. Je me penchais sur l'empreinte bien nette d'une sorte de disque. Cela ne vient pas d'un pied, dis-je. C'est beaucoup plus précis et précieux que cela. C'est la marque d'un pilon de bois. Regardez sur le rebord. Voilà une lourde botte au talon large et ferré. À côté se trouve la marque de l'autre pied, mais circulaire cette fois. C'est l'homme à la jambe de bois. Exact. Mais il y eut quelqu'un d'autre, un allié très capable et très efficace. Voyons, pourriez-vous escalader cette façade, docteur ? Je regardais par la fenêtre. La lune éclairait encore cette façade de la maison. Le sol était à plus de 20 mètres. Et même en écarquillant les yeux, je ne pus distinguer le moindre point d'appui ni la moindre faille dans le mur de briques. Je secouai la tête en déclarant « C'est impossible !»« Impossible tout seul, oui. Mais si vous aviez un ami à cette fenêtre, et si cet ami vous faisait descendre de cette corde solide que je vois dans le coin, après l'avoir attachée à ce grand crochet dans le mur ? Je crois alors que, si vous étiez tant soit peu en forme, vous parviendriez à vous hisser jusqu'ici, jambes de bois comprises. Et vous repartiriez, bien entendu, de la même manière. Après quoi votre allié remonterait la corde, la détacherait du crochet, fermerait la fenêtre, la verrouillerait de l'intérieur et enfin s'en irait par là où il est venu. J'ajouterai un détail secondaire, poursuivit-il en tripotant la corde. Notre ami à la jambe de bois, bien que bon grimpeur, n'est pourtant pas un matelot. Il n'a pas les mains cailleuses. Ma loupe montre plus d'une trace de sang, surtout vers la fin. J'en déduis qu'il s'est laissé glisser à une vitesse telle que ses mains en furent écorchées. Tout cela est très bien, dis-je, mais cette histoire est plus incompréhensible que jamais. Quel est donc cet allié mystérieux ? Comment a-t-il pu pénétrer dans cette pièce ? Ah oui, l'allié, répéta Holmes d'un air songeur. Il apporte des éléments intéressants, cet allié. Grâce à lui, l'affaire sort de l'ordinaire. Je crois bien que cet allié introduit du neuf dans les annales criminelles de ce pays. Des cas similaires se présentent cependant à l'esprit, notamment en Inde, et si ma mémoire est bonne, en Sénégambie. « Comment est-il venu ? » insistai-je. « La porte était verrouillée, la fenêtre est inaccessible. Serait-ce par la cheminée ? La grille est trop petite, » répondit-il. J'y avais déjà pensé. « Alors qui ? Par où ? » Vous ne voulez donc pas appliquer mes principes ? Combien de fois vous ai-je dit que, lorsque vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, si improbable soit-il, est nécessairement la vérité ? Alors, David Brutin, François Lalès. Nécessairement la vérité, est-ce que c'est vers ça qu'on se dirige avec ces outils ? On en a beaucoup parlé, vous étiez partagé sur cet apport à la vérité, mais là, une démonstration implacable. Est-ce que finalement, on va vers une nécessaire vérité, une implacable vérité ?
En fait, comme je l'ai indiqué au tout début de notre interview, iCrime, c'est un outil, c'est pas une machine à dire à la vérité, ce n'est qu'un outil justement pour faire la démonstration de la vérité. Là, la démonstration qui est faite dans l'extrait que vous venez de nous lire, justement, il faut le rejouer, le revisualiser, et en fait, ce qu'iCrime propose de faire, simplement, c'est de le montrer avec toutes les hypothèses et toute la complexité qu'a la physique et la mécanique des fluides.
« Merci à vous qui nous écoutez d'avoir suivi cette nouvelle émission des Temps électriques. J'y ai reçu aujourd'hui François Lalès, magistrat, ancien juge d'instruction du ressort de la Cour d'appel de Caen, et David Brutin, professeur en mécanique des fluides à Aix-Marseille Université et expert de justice. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission sur le site d'Amicus Radio et de suivre le prochain podcast.